Market View, une émission présentée par Laurent Leprévost, directeur général du groupe Babylone.
Amis de la pierre et du cash flow, bonjour, ravi de vous retrouver. On va attaquer un sujet aujourd'hui passionnant et je suis vraiment ravi d'inviter Smaël Bouakaz, qui est le directeur général adjoint d'une structure qui n'est pas si récente que ça, mais qui est jeune par l'esprit, parce que je vous invite tous à aller sur leur site internet, vous allez voir, c'est extrêmement rafraîchissant. Smaël, bonjour.
Bonjour Laurent, merci de m'accueillir.
Voilà, alors Smaël, vous allez nous expliquer en quoi consiste donc votre entreprise Saint-Théo. Vous avez des sujets passionnants sur le bas carbone, sur les mutations environnementales, tout ce que vous pouvez faire pour les immeubles. Juste avant, vous m'expliquez que c'était quasiment une évangélisation, mais je pense qu'effectivement, c'est une véritable évangélisation. Il faut prendre son bâton de pèlerin. Alors, Smaël, est-ce que vous pouvez nous présenter votre entreprise ?
Oui, en quelques mots. Donc, Saint-Théo est une société qui a effectivement 12 ans d'existence maintenant, à peu près, qui a été fondée historiquement autour du Grenelle de l'environnement, qui à l'époque prévoyait un certain nombre d'obligations, de contraintes d'amélioration, notamment de l'efficacité énergétique des bâtiments. Et on a vécu effectivement ces 12 dernières années avec un optique et une focale qui est la transition environnementale. Et globalement, la vocation de Saint-Théo est clairement affichée maintenant depuis quelques années d'accompagner cette transition et notamment à l'ère de ce qu'on va appeler l'immobilier post-carbone. Et dans l'immobilier post-carbone, on y reviendra sans doute plus en détail, on a vocation à agréger autour de nos métiers d'ingénierie et de conseil toutes les expertises qui permettent justement d'avoir un mouvement d'immobilier sobre, responsable, bas carbone et intégrant tous les enjeux de responsabilité sociale et d'économie circulaire notamment.
Alors comment est organisée votre société ? Vous avez combien de salariés ?
Alors c'est ce qui fait la force de notre structure maintenant, parce qu'on est on se définit comme un collectif. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir atteint une certaine taille critique avec 70 collaborateurs, tous engagés sur ce projet d'entreprise qui fait un peu notre ADN. On se définit parfois en interne comme un ensemble d'intrapreneurs, avec toutes les limites, bien sûr, que le terme correspond. Mais c'est effectivement une organisation avec un collectif assez fort, des lignes de métier qui sont très transverses, parce que dans toutes nos expertises, on s'alimente beaucoup les uns et les autres. Donc on a peu de lignes managériales, beaucoup de transversalité dans nos métiers, dans nos missions, ce qui nous permet d'avoir une forte valeur ajoutée. Et notamment, si je prends qu'un seul exemple, dans nos prestations de conseil, être capable d'avoir une ingénierie technique assez forte qui permet de chiffrer, d'élaborer des faisabilités techniques très poussées et d'alimenter de façon assez profonde chacune de nos lignes de métier.
Alors, prenons un cas concret. Je suis propriétaire d'un immeuble standard. Un immeuble banalisé parisien dans le quartier central des affaires. J'ai l'intuition que mon immeuble, il n'est pas tout à fait bas carbone. J'ai le sentiment que j'ai atteint un degré d'obsolescence. Tout le monde me dit que mon produit vaut très cher et factuellement, il vaut très très cher. Deux questions. À quoi ça sert d'engager des travaux quand le marché vous permet, en fait, je me fais l'avocat du diable, de surperformer ? Et comment vous pouvez l'aider, ce brave monsieur, à passer ses nuits de façon plus apaisée ?
Alors, c'est effectivement un cas d'école qu'on a très souvent chez nous, parce qu'on accompagne énormément de clients, donc pour la plupart investisseurs, asset managers, sur des opérations de rénovation urbaine, donc dans le quartier central des affaires, très précisément. La plupart du temps, effectivement, notre cas d'école, c'est effectivement des bâtiments, qu'on va dire, obsolètes, sur lesquels, de toute façon, il y a des travaux, je dirais, de rafraîchissement, de restructuration, qui visent à amener déjà un certain degré de confort, qui répond aux attentes des utilisateurs, notamment de bureaux, et sur tout un tas d'enjeux qui ne sont pas que ceux liés à l'environnement, au verdissement, au bas carbone. Et notre credo est justement d'accompagner, dans le cadre de ces opérations qui visent à maintenir et à remettre à niveau sur le marché immobilier ces actifs-là, d'apporter ce qu'on va appeler une valorisation environnementale, qui va répondre, et on en discutait juste avant, à des attentes soit d'investisseurs engagés, notamment sur la décarbonation de leurs actifs et des actifs dans lesquels ils investissent, soit aux financeurs et de plus en plus à la société civile, je dirais, et aux attentes des utilisateurs finaux qui attendent, au-delà du confort, un certain degré de prise en compte de critères de responsabilité sociétale et notamment en matière de labels, de certification environnementale.
Alors, comment vous sortez de cette équation qui est quasiment insoluble des investisseurs qui, eux, ont, je commence toujours mes émissions par le cash flow, mais qui ont des cash flows, où en fait, j'ai jamais vu encore dans des DCF la monétisation en fait de cet impact environnemental. Donc on est toujours, enfin dans la plupart des cas, on est quand même sur qu'est-ce qui va rentrer dans les caisses par rapport à l'évaluation d'un immeuble. Comment ça, vous arrivez à le percuter? Est-ce que vos investisseurs subissent, entre guillemets, le côté mode verte depuis des années, parce que je ne peux pas faire autrement, il faut que j'y aille, et si j'y vais pas, de toute façon, je suis foutu? Ou j'ai pris conscience qu'il fallait vraiment y aller, et j'arrive à aller à contre-courant de l'économie du projet?
Effectivement, c'est l'éternel débat, et je pense que ces 10 dernières années, sur toute la décennie 2010, on a cherché cette fameuse valeur verte. Je ne vais pas m'exprimer sur le sujet parce que très personnellement, je ne pense pas qu'il y ait de véritable valeur verte. Et aujourd'hui, c'est en tout cas pas assez monétisable, effectivement, de la part en tout cas des experts et des règles de l'art. Néanmoins, moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a au-delà de la sensibilité, de l'appétence et de l'engagement de certains investisseurs, qui est évidente et pour certains affichée, on a quand même des effets de marché. Et par effet de marché, j'entends aussi beaucoup et je vois aussi beaucoup d'effets de différenciation des actifs en eux-mêmes, où il y aura toujours quelque part une surprime ou une attractivité un peu plus élevée à des actifs dans lesquels on a vraiment un gage de qualité, ce qu'on va appeler un signe de qualité. Je pense notamment autour des labels de type HQE, BRIM ou équivalent. Et que cet effet de marché se mesure de plus en plus, que ce soit dans les transactions locatives, l'attractivité vis-à-vis du marché des attentes des utilisateurs d'une part, mais aussi dans les transactions, avec effectivement dans certaines discussions et de deals, y compris sur des immeubles assez conséquents, on affiche quand même toujours une certaine valeur au travail de qualité environnementale qui a été effectué sur l'immeuble.
Donc vous avez pris le sujet à l'envers, si j'ose dire. C'est-à-dire que vous comptez plus sur une hiérarchie des bâtiments entre les vertueux et les non-vertueux, de sorte que les non-vertueux se disqualifient d'eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas les qualités environnementales, plutôt que d'essayer de rentrer dans une valorisation. Parce que sur les aspects valorisation, on pourrait vous opposer qu'un immeuble vert est plus sécurisable parce que le locataire va rester plus longtemps, que donc le taux de rendement va être plus bas. On peut aussi aller quand même dans ce sens-là. Il y a eu des travaux réalisés, je crois, par David Cohen au sein de l'AFS il y a quelques années. Donc on pourrait tout à fait aller dans ce champ-là. Mais quand vous parlez de la société civile, est-ce qu'il n'y a quand même pas un point de rupture entre les grands investisseurs institutionnels qui ont les moyens, je dirais, de communiquer, d'aller vers ce qu'on souhaite tous, et puis, je dirais, tous les autres? C'est-à-dire tous ceux qui contribuent à des loyers encore très élevés et qui, en fait, n'ont pas de hiérarchisation des actifs quand ils doivent prendre une décision. J'avais interrogé il y a quelques temps Olivier Meige, je cite souvent parce que je pense que sa démarche est vraiment excellente, RQR, qui est d'essayer de coter la qualité. Et si on payait finalement pour quelque chose de qualitatif plutôt que uniquement une valeur d'opportunité?
Tout à fait. Et effectivement, je vous rejoins dans la fabuleuse initiative autour du RQR. Effectivement, aujourd'hui, on n'a pas assez de benchmarks, de données précises qui permettent justement de quantifier, de hiérarchiser. Néanmoins, il y a une conviction qui est partagée par bon nombre de nos clients, qui est de limiter quelque part les risques d'obsolescence des actifs. Et pour au-delà de l'obsolescence que je qualifierais de commerciale, l'adaptation d'un actif à son usage, on a de plus en plus de critères d'obsolescence technique. On a connu il y a quelques années différentes réglementations autour des ascenseurs, de l'accessibilité, de l'utilisation de certains fluides frigorigènes. Et plus récemment, et depuis voilà, je dirais une petite décennie, on a quand même un renforcement de cette obsolescence technique autour justement des critères de qualité environnementale. Et cet effet d'accélération et de potentiellement d'augmentation de risque d'obsolescence, il se mesure et quelque part, il se traduit aussi dans les transactions avec un côté préférentiel aux immeubles qui affichent le moins de risques et donc, quelque part, en bout de chaîne, le plus de qualité et le plus de travail fait en profondeur sur le travail de qualité, de sécurisation.
Alors, comment on fait pour décarboner un portefeuille, par exemple, d'actifs? Comment on s'y prend? Quelles sont les étapes pour vous quand un investisseur vous contacte en disant j'ai un problème, je suis hyper carboné. Qu'est-ce que vous proposez, docteur?
Le premier temps, je prône la patience parce que il faut quand même avoir en tête que l'immobilier, c'est effectivement un secteur fortement carboné. Alors, on peut épiloguer sur la nature des impacts, à quel degré les acteurs de la chaîne de valeur immobilière en sont responsables. Mais au-delà de ça, la chance qu'on a, c'est que l'immobilier, ce sont des cycles de temps longs. Donc, le premier diagnostic qu'on opère, pour reprendre vos termes médical, c'est de faire un diagnostic et d'être patient, sans mauvais jeu de mots. Le diagnostic, c'est de faire un état des lieux, donc quelque part de mesurer. Et là, on a des fabuleux outils qui permettent de mesurer l'empreinte carbone des investissements immobiliers, d'un portefeuille immobilier, sur un ensemble de scopes, sur les niveaux de responsabilité de l'asset manager, de l'utilisateur, et des promoteurs et des acteurs de la construction. Et le second, c'est finalement de ne pas forcément changer les pratiques en elles-mêmes, mais d'y intégrer, je pense notamment à tous les cycles d'asset management, de travaux et de gestion, la préoccupation qui est justement l'amélioration de cette empreinte carbone. Et ça, effectivement, on a quand même des leviers qui sont très importants. Si je ne dois en citer qu'un seul, ça serait le réemploi massif de tous les matériaux, qui soient de la réfection de plateaux de bureaux jusqu'à restructuration de façades ou d'éléments de structure. On a un énorme gisement d'économie en carbone au travers du réemploi de matériaux dans les immeubles.
Smaël, merci. Et oui, on a déjà terminé. On pourrait doubler, tripler cet entretien parce que là, vous commencez à évoquer l'économie circulaire. Donc, c'est encore un autre chantier considérable. Mais je pense que c'est aussi un message très, très positif envoyé aux jeunes générations ou même ceux qui sont encore en poste dans les entreprises parce que face à des marchés qui peuvent se rétracter, en fait, on a des poches de valeurs qu'on ne soupçonne pas par tous ces travaux. Et investisseurs et acteurs parisiens, franciliens et même nationaux, puisque Saint-Théo est aussi implanté, je crois, à Marseille et à Lyon, c'est ça ?
Marseille et Bordeaux.
Et Bordeaux, oui, c'est mieux.
En attendant une expansion un peu plus internationale.
Voilà, je pense, ayez des bons réflexes. Et n'hésitez pas donc à consulter Saint-Théo pour avoir au moins des clés, parce que ça sera primordial et la hiérarchisation des actifs va se faire de toute façon, c'est inéluctable. Merci à tous.
Merci Laurent.
Retrouvez en podcast et téléchargement MarketView sur le site de Radio Immo.